France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Arnaud Meunier.
Elsa Boublil.
À toute chose, malheur est bon.
Titre phare du film de René Clément, Les Jeux Interdits que nous vous accueillons, Arnaud Meunier, metteur en scène, directeur de la Comédie de Saint-Étienne depuis 2011. Votre patte à vous, c'est de faire jouer des auteurs contemporains et vivants. Vous avez monté plusieurs pièces de Pasolini, de Michel Vinavert, de Orisa Hirata, de Stefano Massini et puis récemment Fabrice Melchior. Alors, Les Jeux Interdits de René Clément, interprété par Narciso Yepes pour vous accueillir, puisque c'est une musique, je crois, jouée d'oreille par votre père, puisque vous avez grandi dans une atmosphère très musicale, avec un papa donc guitariste, autodidacte, et un frère au piano, et une mère, je crois, qui aurait rêvé de devenir pianiste. Bonjour.
Bonjour Elsa. Oui, bah quand vous m'avez demandé un morceau qui évoquait les premiers émois musicaux, c'est ce qui m'est revenu effectivement, Jeux Interdits. D'une part parce que c'est effectivement un morceau que jouait mon père à la guitare, et puis ça m'est revenu là en l'écoutant, je me suis dit c'est aussi le premier spectacle, je crois, à lequel j'ai le souvenir de participer à l'école primaire, donc on est à Cognac, et j'ai le souvenir qu'on est sur un stade et tous les enfants de primaire avec des foulards, on faisait une sorte de chorégraphie sur Jeux Interdits. Donc c'est marrant, c'est ce morceau-là qui m'est revenu quand j'ai pensé à ce qu'avait pu être les premiers souvenirs, oui, effectivement.
Avec ce titre hein, qui parle à soi tout seul, Les Jeux Interdits, où il est question effectivement de transgression finalement.
Bah, oui, vous évoquiez ma mère tout à l'heure. La musique vient vraiment beaucoup de ma mère, parce que ma mère est une enfant de la guerre, donc on retrouve la thématique du film.
Brigitte Fossé.
Et voilà, elle est née en 45, et mes parents ont comme point commun d'avoir une relation compliquée à leur famille, tous les deux. Ma mère a été adoptée, mon père pas loin d'une certaine manière, et ma mère, mes grands-parents maternels étaient vraiment ouvriers à la chaîne, et mes grands-parents paternels étaient cheminots. Et ma mère, allait savoir pourquoi, quand elle était toute petite, rêvait de faire du piano. C'était vraiment un rêve très très fort. Mais ses parents étaient pas spécialement pour une raison, j'allais dire, culturelle. C'est-à-dire que ça se faisait pas, quoi. Voilà.
Dans ce milieu-là,
on voyait pas comment est-ce que, puis, il fallait, l'idée d'avoir un piano, comment faire pour avoir du piano. Enfin, mes grands-parents étaient pas des gens, comment dire, butés ou fermés, mais ça ne se faisait pas. Enfin, bref. Donc, ma mère a grandi avec cette frustration-là, et résultat, elle a eu 3 fils, et elle nous a collés tous les 3, à l'école de musique, dès notre plus jeune âge, sans nous demander notre avis, d'une certaine manière. Donc, on a été au jardin musical, je crois, à partir de l'âge de 3-4 ans, et puis ensuite les premières classes de solfège, etc. Ce qui fait que les 3 garçons, les 3, on a fait de la musique.
La question sociale, c'est une question qui semble revenir souvent, en tout cas dans ce que vous nous proposez de vivre dans vos mises en scène. Vous êtes metteur en scène de théâtre, mais vous avez également dirigé des chanteurs et mis en scène des opéras. C'est d'ailleurs, je crois, par là que vous avez commencé, en quelque sorte, et on va avoir l'occasion d'en parler tout au long de cet entretien, puisque vous êtes l'invité de Musique et Moi jusqu'à 12h30, Arnaud Meunier. Et je voulais juste, avant d'écouter la suite de la programmation musicale, savoir pourquoi vous aviez choisi ce dicton « à toute chose, malheur est bon ».
Alors, ma grand-mère maternelle était une femme de proverbe. Elle m'en a vraiment nourri tout au long de ma jeunesse, ce qui fait que j'en dis au moins 2-3 par jour. Et celui-là, c'est mon préféré. C'est celui avec lequel je bassine toutes mes équipes. À toute chose, malheur est bon. En fait, c'est celui qui me tient d'une certaine manière. Parce que quand il vous tombe une tuile sur le coin du visage, on est d'abord abattu. Et puis souvent, il y a une partie de moi qui me dit, en fait, si cette chose-là ne se fait pas, c'est qu'elle ne devait pas se faire. Et c'est que quelque chose d'autre va advenir, et ce quelque chose peut être beaucoup plus intéressant. En anglais, la traduction, ça pourrait être, l'autre proverbe anglais, c'est « a blessing in disguise ». Et c'est, je trouve que c'est souvent ça, c'est-à-dire que finalement, c'est une bonne nouvelle, mais on ne le sait pas encore.
Et donc, jusque-là, vous avez pu confirmer ce dicton ?
Bah, tout le temps, voilà, chapitre de la chute, saga des Lehman Brothers, qui a été mon plus gros succès récemment, n'aurait pas été ce spectacle-là s'il n'y avait pas eu une succession de mauvaises nouvelles toutes plus catastrophiques les unes que les autres au début. Et finalement, ça a donné peut-être, enfin en tout cas, mon plus gros succès.
C'est Arnaud Meunier, le directeur de la Comédie de Saint-Étienne, qui est l'invité de Musique et Moi jusqu'à 12h30 sur France Musique.
Thank you.
Aldo Ciccolini interprète la sonate au clair de lune de Ludwig van Beethoven. Pour commencer cette émission avec vous, Arnaud Meunier, c'est un souvenir musical d'enfance. En fait, on le disait tout à l'heure, hein, la musique a été très très présente dans votre famille. Votre mère vous a inscrit tous à l'école de musique. Et ça, c'est un souvenir relié à l'un de vos frères.
C'est mon frère Guillaume, oui, qui est pianiste et qui, lui, a continué dans la musique puisqu'il est enseignant, il est agrégé en musique, il enseigne dans un lycée à Béthune. Et comme nos chambres étaient mitoyennes, en fait, je l'entendais répéter ses leçons de piano. Donc la sonate au clair de lune, c'est évidemment un des premiers morceaux qu'on apprend au piano. Donc j'ai vraiment ce souvenir-là d'écouter mon frère faire du piano. Et donc j'ai beaucoup fait mes devoirs comme enfant à l'école, en écoutant mon frère répéter ses leçons de musique, puisque lui, il a fait du piano et du violoncelle. Et mon petit frère, Maxime, lui, a fait du piano aussi. Mais comme on a 5 ans d'écart, c'était un petit peu plus... j'ai plus le souvenir d'entendre Guillaume faire de la musique que Maxime.
Cette volonté de votre mère de vous enseigner la musique parce qu'elle n'avait pas pu, elle, l'apprendre, est-ce que ça a été un poids, Arnaud Meunier? Parce que ça pourrait l'être.
Eh ben, je crois que c'est tout le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'elle nous a rendu le plus grand service dans nos vies à tous les trois. Parce que, d'une certaine manière, la musique ne nous a pas quittés pour aucun des trois. Celui qui en a vraiment fait son métier, c'est mon frère Guillaume, mais moi je suis venu au théâtre via la musique. Hein. C'est parce que je faisais de la flûte traversière et que je pratiquais le chant choral dans cette petite école de musique qu'on n'appelait pas encore conservatoire, dans une petite ville de Charente qui s'appelle Barbezieux-Saint-Hilaire, donc c'est entre Cognac et Angoulême. On ne dira jamais à quel point c'est important ce réseau de toutes ces petites écoles de musique qui sont devenues ensuite des conservatoires avec des sigles et des tout ce qu'on veut, etc. Mais le fait qu'on puisse pratiquer l'art dès le plus jeune âge, à un prix tout à fait symbolique parce que c'est payé par les villes, et qu'on puisse avoir... C'est pour ça que je pense qu'elle nous a rendu un service incroyable, parce que éduquer, en tout cas initier, plus exactement, ses enfants à la pratique artistique dès le plus jeune âge, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Parce que c'est Fernand Léger qui dit que l'art, c'est la revanche des sensibles sur les intelligents. Et je pense que du coup, ce qu'on développe à travers une pratique artistique n'a rien à voir avec la pratique scolaire. Et que en France, comme dans plein d'autres pays, on a cette culture scolaire qui est extrêmement pyramidale, extrêmement codifiée, hein, qui fait que au jour d'aujourd'hui, ce sont les enfants d'enseignants qui réussissent le mieux à l'école parce qu'ils comprennent et on leur enseigne les codes. Mais du coup, moi qui suis très attaché à la seconde chance et au fait de rattraper les gens qui ont été fâchés avec l'école, la pratique artistique, souvent, c'est ce qui libère et c'est ce qui ouvre d'autres portes et d'autres fenêtres.
Bon, ça ne vous a pas empêché d'être un bon élève, d'après ce que j'ai lu, mais la pratique artistique et musicale, le chant choral par exemple, ça a été...
Moi, c'est ce qui me soulage le plus, c'est ce qui m'apaise le plus, c'est-à-dire que quand je suis stressé ou quand, etc., je chante à tue-tête. Je vais vous faire une confidence, par exemple. Je peux arriver chez moi après une répétition et me mettre en replay, n'oubliez pas les paroles, et je chante à tue-tête sur les chansons en karaoké, n'oubliez pas les paroles. Donc moi, je suis un dingue de karaoké, je fais chanter toute mon équipe à la Comédie de Saint-Étienne sur du karaoké. Le chant, je trouve que c'est une des choses qui libère le plus.
Le psaume 42 de Mendelssohn, vous l'avez chanté à quel âge ?
15 ans.
Thank you.
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser de Felix Mendelssohn, le psaume 42, interprété par le City of London Symphonia, le chœur symphonique de Londres, sous la direction de Richard Hickox. Arnaud Meunier, c'est donc un souvenir d'adolescence, un psaume que vous avez chanté avec le chœur donc
De Barbezieux.
De Barbezieux, ouais. Ça donc.
Et puis c'était non seulement le chœur, mais il y avait l'orchestre du conservatoire aussi. Donc ça, c'était la grosse production de fin d'année. Donc ça, j'en garde un souvenir très 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 fort. D'une part parce que c'est très beau, je trouve, le chant de Mendelssohn. Et moi qui ne suis pas croyant, mais qui volontiers pourrait me dire un petit peu comme un mystique.
On est vraiment...
Ou superstitieux. Ah bah oui, il y a quelque chose qui appelle. Hein, Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, c'est comme le cerf court après l'eau fraîche. Ainsi mon cœur t'appelle, mon Dieu. Enfin voilà, il y a... Donc moi je ne suis pas croyant, mais je comprends le besoin de spiritualité. Et donc là j'ai 15 ans, donc je suis adolescent, je suis au milieu d'une chorale. Et puis il nous arrive une très très belle histoire, c'est que on est invité en Allemagne avec cette œuvre. Et donc je vais pour la première fois de ma vie à Wolfratshausen, qui est une petite ville du sud de la Bavière. Et du coup, je vais rencontrer là ce qui s'appelle un correspondant allemand, et on va se suivre jusqu'à la terminale. Donc je vais aller en Allemagne tous les ans à la suite de ce voyage-là. C'est mon premier voyage à l'étranger, donc le départ en bus avec tout le monde. Voilà, ça reste un souvenir assez fort. Et puis ça reste le souvenir toujours de ce qu'on arrive à faire, parce qu'on l'avait joué dans une église. Barbezieux, c'est en Charente, il y a beaucoup d'églises romanes. Ça aussi, les églises, j'ai jamais été très à l'aise dans les églises. Il y a quelque chose dans la religion catholique qui m'effraie, dans cette espèce de mise en scène constante de la souffrance. Moi, je suis quelqu'un qui recherche la joie, l'allégresse, quelque chose de solaire. Quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'énergie des autres. Donc il y a quelque chose que je trouve très austère dans la religion catholique. Bon, pas que dans la religion catholique, dans les religions souvent, mais en particulier, je trouve, dans la religion catholique, il y a quelque chose où il faut souffrir. Donc c'est quelque chose qui m'effraie. Mais par contre, quand on est tous ensemble à jouer de la musique, à chanter, là, il y a quelque chose qui nous élève. Et ça reste un souvenir fort, oui.
Et qu'est-ce qui a dominé ? C'est le voyage en Allemagne, la découverte de l'Allemagne, de la langue allemande, ou cette musique, cette communion, le fait d'être ensemble, ou les deux d'ailleurs, Arnaud Meunier.
En fait, j'ai malheureusement pas le temps de reparticiper à une chorale, mais je pense que le jour où le temps reviendra d'une certaine manière, je pense que je referai du chant choral, parce que je trouve que c'est une chose extraordinaire de pratiquer le chant avec les autres. D'abord, le chant libère, et puis le chant avec les autres, le fait de trouver à la fois sa place, toute sa place, mais rien que sa place, pour pas écraser non plus les autres lignes harmoniques. Et ça, je trouve que c'est très puissant.
Savoir écouter les autres aussi.
Je trouve que c'est une belle métaphore. C'est aussi pour ça que la musique m'a amené au théâtre. C'est parce que ce sont des arts... en tout cas, le chant choral, c'est collectif.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Arnaud Meunier, ce collectif-là dont vous parliez semble vous gouverner. Quel genre d'enfant étiez-vous ? Vous étiez un enfant solitaire ou au contraire un enfant toujours en recherche de l'autre, de la communication, de la...
Ah mais constamment, moi je supporte pas la solitude, je suis vraiment pas du tout un solitaire. Et puis je supporte pas non plus de ne rien faire. Je suis pas un hyperactif, mais pas loin. C'est-à-dire que même en vacances, j'ai besoin d'organiser les choses, j'ai besoin de savoir ce qu'on va faire. J'organise des voyages. C'est mon autre passion, par exemple,
oui,
après le théâtre.
Vous pourriez ouvrir un petit guide, c'est ça?
Ah
faire
non,
un
mais
petit
constamment,
guide.
Je pourrais. Si j'avais pas fait du théâtre, j'aurais pu ouvrir une agence de voyage.
D'accord,
je
oui.
pense. J'adore ça. J'adore parler les langues étrangères. J'adore découvrir de nouvelles cultures, d'aller dans d'autres pays. C'est une passion.
Et ça, c'est depuis toujours.
Je pense oui. Enfin, ça m'a toujours intrigué, passionné. Voilà, j'y pense souvent. Je pense souvent à mes grands-parents, par exemple maternels, qui eux n'ont jamais vu autre chose que la France. Je me pense souvent à eux en me disant la chance que j'ai d'avoir voyagé autant, d'aller autant à l'étranger. Souvent, je me rends compte de ça, de la chance que c'est avec ce métier de pouvoir faire ça.
Et la curiosité, donc, elle est là depuis toujours.
Je pense qu'elle a toujours fait partie de moi et j'ai toujours eu besoin de rencontrer les autres. Et comme par ailleurs, je suis quand même j'ai été ce qu'on appelle un bon élève. Et donc, c'est aussi une souffrance. Il y a une souffrance du bon élève parce qu'on est un peu isolé. Parce que du coup, bah oui, le premier de la classe, c'est pas non plus toujours celui qui est le bien vu. Et donc, il y a une partie de moi qui a cherché à compenser d'une certaine manière.
Thank you.
Stabat Mater de Vivaldi, interprété par Philippe Jarouski avec l'ensemble Arta Cercé. Pour poursuivre cette conversation avec vous, Arnaud Meunier, ce chant d'amour, hein, de douleur et de piété qu'on vient d'entendre, c'est un moment de votre vie important. D'ailleurs, je note que vous disiez ne pas du tout vous sentir religieux. Pourtant, dans cette première partie d'émission, on va écouter pas mal de musique sacrée, si ce n'est pas religieuse.
Oui, c'est lié à Pasolini, ça. C'est vraiment lié au fait qu'il y a eu un choc très fort de la rencontre du théâtre de Pasolini à la fin des années 90, pour moi, quand j'ai fait la rencontre de Stanislas Nordet, qui répétait Porcherie à l'époque. Il avait vu mon premier spectacle dans le off du Festival d'Avignon. C'était Croisade de Michel Azama. Et comme souvent, Stanislas aime beaucoup découvrir les jeunes talents. Donc il m'a proposé de venir au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, qu'il dirigeait à l'époque. Il répétait Pasolini, Porcherie. Et c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et tout d'un coup, c'est comme une espèce d'eau fraîche qui vous arrive en pleine face. Vous découvrez un univers, une écriture, une poésie qui m'a littéralement irradié. Donc à partir de là, souvent ce qui se passe quand on a un choc pasolinien, c'est qu'on commence à tout dévorer. Et donc j'ai commencé à regarder les films et tout ça. Et j'étais mûr pour faire ça parce que je me souviens que j'avais vu Théorème très jeune en arrivant à Paris, mais je m'étais endormi devant, j'avais rien compris. Et là, tout d'un coup, toutes les portes s'ouvrent. Et là, effectivement, Acatone et Mamma Roma, tous les courts-métrages que sont Les Nuages, Uccellacci et Uccellini, tout ça, ça a été un pâturage dans lequel je me suis mis à gambader comme un dingue. Et la musique sacrée, c'est Pasolini, parce que l'adjectif qu'utilise Pasolini, c'est d'être élégiaque et joyeux. Et ça, je trouve que c'est la très très belle association. Il y a quelque chose qui est à la fois nostalgique, mais c'est pas de la nostalgie triste, c'est élégiaque, donc ça nous élève. Donc il y a le fait aussi de vouloir rendre aux gens humbles, aux gens du peuple, une beauté et une force, et de mettre en scène ces visages, ces corps qu'on ne voyait pas sur les écrans. Et de chercher tout le temps la vérité des corps et la vérité des visages. Quand on voit l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, c'est incroyable parce que le Christ est devenu une figure révolutionnaire et tous les visages choisis, qui sont des gens, qui sont des prolétaires de la banlieue romaine, tout d'un coup amènent une force au film indescriptible.
Mais alors vous, Arnaud Meunier, expliquez-nous comment vous êtes passé de cet univers donc en Charente, de famille musicienne et musicale, en tout cas, atmosphère musicale. Je crois que vous avez eu la chance de pouvoir étudier à Sciences Po après le bac. Comment vous êtes tombé dans le théâtre?
En fait, c'est le hasard, mais en fait, il n'y a pas complètement de hasard. C'est-à-dire que dans ma petite école de musique à Barbezieux, un jour, il y avait un petit panneau dans l'escalier qui montait à l'étage, avec une petite colombine et un petit arlequin qui était dessiné. Il y avait marqué « Ouverture d'une classe d'art dramatique ». Et allez savoir pourquoi, ça m'a absolument attiré. Et donc, j'ai poussé la porte du premier cours, enfin de la réunion d'information, et là, il y avait une professeure qui s'appelle Régine Adagra, qui est toujours vivante et dont la passion et la fougue a rencontré, on va dire, ce qui était pour moi, j'imagine, une intuition et une curiosité. Et ça a été ma première professeure de théâtre, tellement importante encore pour moi. Et j'ai grandi avec elle, c'est-à-dire que j'ai passé toute mon adolescence de 13 ans à 17 ans avec elle. Sciences Po, c'est une forme de hasard, c'est-à-dire que du coup, comme tous les bons élèves, en fait, on ne sait pas quoi faire. Et comme tous les bons élèves, on vous fout la paix, d'ailleurs, on vous dit qu'on peut faire tout, voilà.
Ce qu'on veut.
Ce qu'on veut, ce qui est terrible d'ailleurs, parce que du coup, et une fois, je suis tombé complètement par hasard à la bibliothèque du lycée, il y avait un bouquin qui s'appelait « Comment réussir Sciences Po ». Donc je l'ai feuilleté, ça parlait de culture générale, ça parlait de langue vivante, ça parlait de français et de philosophie. Je me suis dit, oh bah tiens, ça a l'air bien. Et je me suis inscrit au concours et puis je l'ai eu.
On ne vous en avait jamais parlé avant de Sciences Po ?
Jamais, jamais. Mais je me pense même qu'au lycée Elie-Vigné de Barbezieux-Saint-Hilaire, je ne sais pas si quelqu'un avait même tenté Sciences Po avant moi. On n'en avait jamais parlé. C'était pas le lycée qui menait aux grandes écoles. On avait quelques-uns qui faisaient des hippocagnes ou des choses comme ça, ou des maths sup. Mais Sciences Po, c'est venu complètement par hasard. Mais encore une fois, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois beaucoup à ça.
Il n'y a que des passions.
Thank you.
Wir setzen uns mit Tränen nieder de la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, interprété par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, le chœur de Saint Thomas de Leipzig, le chœur de garçons de Tölz, sous la direction de Ricardo Chailly. C'est encore, je crois, Arnaud Meunier, un lien avec Pasolini.
Oui, absolument. Oui. C'est l'Évangile selon Saint Matthieu, on en parlait juste avant. C'est un film extrêmement puissant. D'ailleurs, c'est très drôle parce que ça va avec toute l'histoire de Pasolini. Parce que de Pasolini, on garde tout le temps le côté sulfureux. Donc, c'est beaucoup Salaud ou les 120 journées de Sodome, l'idée du scandale, etc. Alors que Pasolini, c'est avant toute chose un très grand poète et quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté de chercher et de transmettre. Donc, et puis, une proximité avec les milieux populaires très puissantes et proximité poétique et avec des souffrances terribles hein, parce que son premier métier c'était d'être instituteur. Il a été chassé de la profession pour des accusations de pédophilie et le parti communiste l'a chassé du parti à ce moment-là. Ça a été une double douleur pour lui et il a constamment traîné ça avec lui et donc il a compensé ça par l'envie constamment de transmettre autrement et donc de transmettre par l'art, par les œuvres. Et c'est pour ça, pour moi, Pasolini, c'est un bourreau de travail qui n'a jamais cessé de chercher. Et puis qui a compris bien avant tout le monde ce qui se passait en Italie, là, les dégâts de la société de consommation, cette idée que, très rapidement, son idée c'était de dire que le fascisme de Mussolini n'avait jamais réussi à faire ce que la société de consommation avait réussi à faire.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire le conformisme, le fait que, y compris les milieux populaires, avaient les mêmes désirs que les petits bourgeois.
Alors, Pasolini qui joue cette place prépondérante, on peut dire dans vos débuts, oui. Arnaud Meunier, puisque vous avez mis en scène 5 pièces de Pasolini. Mais est-ce que c'est lui qui vous a fait, par exemple, découvrir La Passion selon Saint Matthieu ou vous la connaissiez
Non, tout à fait. Mais de toute façon, via Pasolini, en fait, on s'ouvre tout un champ de culture, donc musical, mais aussi poétique. Par exemple, les poèmes de Nazım Hikmet, qui est un grand poète turc, c'est via Pasolini que je les ai découverts. Donc après, à un moment donné, le truc, c'est de chercher à se désintoxiquer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai monté La vie est un songe de Calderón de la Barca, qui est mon premier classique, je crois, parce que moi, je monte quasiment que des auteurs vivants. C'est parce que je ne voulais pas monter Calderón de Pasolini, donc je me suis dit, je vais faire un pas de côté en allant sur l'œuvre originale. Parce qu'après, on met un certain temps à se désintoxiquer. Mais aujourd'hui encore, je le transmets, puisque dans les écoles où j'interviens, par exemple les écoles de comédiens, souvent, on me fait intervenir sur Pasolini.
Et ce lien entre le peuple et l'art, comment transmettre, c'est Pasolini qui vous a guidé sur ce chemin-là, parce que
alors,
ça vous préoccupe.
Ça vient aussi de la famille, parce que donc on a dit en introduction que ma famille avait une relation musicale, mais elle, du côté de mon père, elle est instinctive, elle est autodidacte. Du côté de ma mère, elle vient de la frustration. On l'a dit. Donc moi, je viens d'un milieu où on n'allait pas spontanément dans les théâtres.
C'est la classe moyenne.
C'est plus exactement, oui. Enfin, c'est la classe moyenne issue des classes populaires. Donc c'est la première génération. Mon père est devenu médecin avec ses parents qui se sont, entre guillemets, pas saignés, mais presque pour que le fils puisse faire des études de médecine. Donc c'est la première génération qui accède à l'ascenseur social, d'une certaine manière. Ça, c'est vraiment toute la méritocratie française, le modèle républicain dans lequel moi j'ai baigné.
Qui vous tient à cœur, je crois.
Ben franchement, oui.
Thank you.
L'orchestre Paris Classique interprète la chacane en sol de Tommaso Antonio Vitali, qui est une œuvre qui nous ramène à votre arrivée à Paris, je crois, Arnaud Meunier, et à un moment assez, assez fort quand même de votre vie.
Oui, c'est 1993, c'est le moment où je tombe amoureux de la personne avec qui je vis encore aujourd'hui, donc ça fait 26 ans. Et c'est la bande originale aussi du film Les Nuits Fauves de Cyril Collard, qui est un film qui va être très très important pour moi, parce que c'est le premier film qui parle du sida de manière aussi forte, aussi franche. Et puis c'est via Cyril Collard que je vais rencontrer mon compagnon. Donc ça reste un moment très très fort et très important.
Est-ce que
c'est...
votre compagnon travaillait avec Cyril
oui,
Collard?
Il était le premier assistant du film.
D'accord.
Il est cinéaste.
Des Nuits Fauves. Hein.
Des Nuits Fauves, oui. Et du coup, c'est un moment très fort pour moi. C'est l'arrivée à Paris. On est en plein dans les années SIDA. Donc moi j'arrive de province, je découvre tout ça. Donc d'abord, je découvre mon homosexualité, c'est-à-dire que je l'assume. Ce qui était très nouveau pour moi, j'ai 20 ans, donc aujourd'hui ça doit faire sourire les jeunes qui nous écoutent. Et tant mieux, voilà, mais effectivement j'ai 20 ans, donc je découvre, enfin je le découvre pas, mais en tout cas je l'assume. Je découvre Paris, et maintenant j'ai mon diplôme de Sciences Po en poche, puisque j'étais le Benjamin de ma promotion, j'avais à peine 20 ans quand j'ai été diplômé, et du coup, voilà, je me dis, bah là maintenant je peux peut-être faire ce qui est ma passion depuis toujours, c'est-à-dire du théâtre. Je fais du théâtre depuis l'âge de 13 ans maintenant, et si j'essayais d'en faire mon métier. Et donc, Les Nuits Fauves, c'est un marqueur pour moi de tout ça.
Parce que c'est presque un manifeste, Les Nuits Fauves, enfin ça arrive. Bah,
complètement, là j'étais très frappé, il y a beaucoup de choses là qui se passent de films. Christophe Honoré a fait et un film et un spectacle hein, sur les années SIDA. Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment sur les années SIDA. Et je me rends compte à quel point le monde a changé, à quel point on vit plus du tout de la même manière cette peur-là. Parce que moi, je suis de la génération qui n'a connu que le préservatif. C'est-à-dire que la génération qui a commencé sa sexualité sous préservatif. Alors que compagnon, lui, il est la génération qui a vu ses amis partir.
Oui, et puis le sida est à ce moment-là essentiellement associé à l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un curseur qui bouge.
Tout à fait. Et puis le fait qu'une sorte de malédiction, le fait de se dire, moi je me souviens du moment où chez mes parents arrive un ami médecin et sa femme est psy, et tout d'un coup une discussion s'engage sur le film Soleil Nuit Fauve, et cette femme psychologue dit, de toute façon les homosexuels sont condamnés à être malheureux, tous ceux que je reçois sont condamnés à être malheureux, et moi j'ai à peine 20 ans, je suis terrassé par cette phrase là et donc je pousse un cri de colère en disant c'est pas possible d'entendre une chose comme ça, etc., etc. Et donc là, je pense que j'ai fait mon outing en direct. Je pense que ce jour-là, mes parents, qui à mon avis le soupçonnaient déjà, là, ont très nettement compris ce qui se passait.
Mais est-ce que vous pensez, Arnaud Meunier, que ce cri de colère que vous avez exprimé face à cette phrase qui est sans opposition possible, en tout cas, vous a aussi conduit sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette nécessité de poser des questions, d'être dans la joie, de ne jamais laisser la tristesse l'emporter sur...
Tout le temps. C'est-à-dire que du coup, ça aussi c'est Pasolini, c'est la vitalité. Hein. Il y a un poème de Pasolini qui s'appelle Une vitalité désespérée. Donc moi je pense que je ne suis pas désespéré, je pense que je suis un optimiste très... C'est un moteur, l'optimisme chez moi, l'enthousiasme, je pense que c'est un moteur. Je cherche toujours l'adhésion des autres. Donc ça, je pense que je ne sais pas travailler dans le conflit, je ne sais pas travailler contre les autres. J'ai besoin d'entraîner les autres avec moi. Mais par contre, je pense que je connais la position du minoritaire. Et donc ça me donne une proximité très forte avec les minoritaires. Et donc dans les minoritaires, j'inclus les milieux populaires et les minorités visibles. C'est-à-dire que du coup, mon combat, par exemple, pour l'égalité des chances, je pense qu'il vient de à la fois et de l'histoire de ma famille, de mon milieu d'origine, mais il vient aussi de ce que j'ai pu ressentir dans ma chair, c'est le fait de pouvoir se sentir rejeté par les autres.
Je croyais que tu avais de la lumière. J'ai ouvert nos fenêtres. Il a fait tout chaud en nous. veux, que je vois, que je veux dénouer.
Je suis affreuse ainsi.
Oh, Mélissa!
L'acte 3, scène 1 de Péléas et Mélisande de Claude Debussy, interprété par l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Sir Simon Rattle avec Magdalena Kozena et Christian Gerhard. C'est une œuvre qui compte pour vous, non seulement l'œuvre, mais aussi le chef d'orchestre, Arnaud Meunier. Ça fait partie des opéras que vous avez approchés de très près.
Oui, j'ai eu la chance d'être metteur en scène associé aux côtés de Stanislas Nordet,
ouais.
Pour la création au Festival de Pâques de Strasbourg en 2006 de Péléas et Mélisande, et ensuite j'ai assuré la reprise à Covent Garden l'année d'après. Et c'était effectivement Sir Simon Rattle qui dirigeait. Et là, j'avoue que ça reste un souvenir extraordinaire pour moi. Aussi parce que sur les points communs entre le théâtre et la musique. Moi, je dis souvent que je compare beaucoup le travail du metteur en scène à celui du chef d'orchestre. Je parle beaucoup des textes de théâtre comme des partitions. Je dis beaucoup aux comédiennes et aux comédiens de considérer le texte comme une partition et d'y trouver
s'emparer des notes, s'emparer des...
Et par exemple, je parle du silence. Je dis qu'en musique, le silence a une valeur, il est écrit. Il a une valeur et souvent je trouve que les comédiens commettent une erreur quand tout d'un coup ils changent la valeur de ce silence. Je trouve que une partition c'est aussi une contrainte mais c'est aussi une voie pour l'interprétation. Et moi ce qui m'a frappé chez Simon Rattle c'était sa manière de parler de la musique au chanteur. Donc il décrivait la partition, en fait il faisait un travail de dramaturgie, c'est-à-dire que il décrivait dans les motifs musicaux la signification possible de ces motifs. Donc, pourquoi tel instrument était associé à Golo? Pourquoi tel motif, c'était plutôt le motif de Mélisande? Comment ça revenait? Comment c'était construit? Comment là, il y avait un point d'appui pour le jeu parce que ça correspondait à telle note? Et ça, j'ai trouvé extraordinaire. C'est-à-dire que du coup, nous, les gens de théâtre, on a l'habitude de faire un travail à la table avant d'aller sur scène. Et en fait, Rattle faisait exactement la même chose
depuis
avec les
pupitre.
Chanteurs. Depuis son pupitre. Et donc ça, j'ai trouvé ça, mais lumineux.
Alors vous qui avez commencé par le théâtre, être rattaché soudainement à la musique, malgré vous, comment ça s'est passé? Parce que Stanislas Nordet, c'est une histoire qui commençait à durer.
Ben en fait, Stanislas, c'est mon premier assistant à la mise en scène. C'est-à-dire que la première fois que j'ai été assistant à la mise en scène, c'est sur un opéra. Mmh. C'est sur Tris et Stris de Peter Rudvogt, qui est la revisitation des Trois Sœurs de Tchekhov. Donc en fait, c'est Stanislas qui m'a ouvert la porte de l'opéra. Mmh. Moi, je n'avais jamais mis les pieds dans un opéra de ma vie. J'ai commencé donc par une œuvre contemporaine. Donc,
mais ça vous a pas fait peur?
Ah mais évidemment, j'étais effrayé. C'est-à-dire qu'en plus, j'étais à la fois extrêmement flatté et honoré que Stanislas me propose ce travail-là, très excité à l'idée de travailler à ses côtés, et en même temps effrayé par cette musique contemporaine. Donc j'avais un CD que j'avais commencé à écouter, et au début, la musique me paraissait extrêmement difficile. Et on a répété aux Pays-Bas, donc dans une toute petite ville qui s'appelle Enschede, où il y a
la frontière allemande.
La frontière allemande, exactement, où il y a les salles de répétition du Reichsnational Opera. Et donc on avait que ça à faire, hein, parce qu'à Enschede, à part répéter, c'est d'ailleurs le but, on avait que ça à faire. Et du coup, j'ai découvert un monde, le monde de l'opéra, le monde des répétitions, et puis alors surtout, effectivement, de faire un opéra où il y a 4 chanteurs contre-ténors dans la distribution. Ça a été pour moi une découverte extraordinaire. Et donc, je me souviens de la toute première heure, de la toute première répétition, les 3 contre-ténors qui chantent les Trois Sœurs, qui commencent l'ouverture de Tris et Stris. Et là, je me souviens de la sensation physique d'avoir les poils qui se sont dressés sur les bras parce que j'étais à 2 mètres 2. Et ces 3 voix extraordinaires de ces 3 hommes capables de chanter comme des femmes, ça m'a bouleversé.
Thank you.
Peter Eötvös dirige Trois Sœurs dans son prologue de Peter Eötvös avec l'orchestre de l'Opéra National de Lyon. C'est donc, Arnaud Meunier, vos débuts, vos tout débuts lancés, j'ai envie de dire, dans l'arène de l'opéra avec une œuvre contemporaine. Ça a joué dans votre cheminement comme ça de découvrir, de commencer avec une œuvre contemporaine que vous ne connaissiez
considérablement pas. Parce que donc je mets en scène au théâtre surtout des auteurs vivants ou des auteurs contemporains, donc récemment morts. Et je pense que la question du rapport à l'art contemporain est la même, quelle que soit la discipline. C'est-à-dire que c'est la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait à ce point peur aux gens? Pourquoi est-ce que c'est plus difficile de faire venir des publics sur des œuvres contemporaines, que ce soit de la musique contemporaine, de la danse contemporaine, du théâtre contemporain? C'est parce que on n'a pas forcément de repères. Donc on a peur de l'inconnu, on a peur de ne pas comprendre, on a peur de ne pas aimer. Donc il y a un conservatisme des programmations de manière générale qui est lié au fait qu'on sait que les publics seront attirés par ce qu'on appelle les titres. Donc pour ça que dans la plupart des opéras du monde entier, on a la Traviata, on a toujours les mêmes titres, Carmen, etc., etc. Y compris, pareil, dans les théâtres publics, souvent, on a beaucoup de classiques et pas beaucoup de contemporains.
Mais alors, comment on fait pour casser cette peur? C'est ça qui est compliqué.
Eh ben, on fait ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que du coup, il faut, en fait, ouvrir les portes et les fenêtres, c'est-à-dire se dire que, en fait, ce prologue de Tricestri, des Trois Sœurs, je pense que c'est un classique de demain. Je pense que c'est une œuvre qui est appelée à être remontée. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de productions de cette œuvre de Eötvös, contre toute attente, assez rapidement. Et ça, je pense que c'est le travail du service public de la création, donc des opéras nationaux, des théâtres publics, de faire découvrir un nouveau répertoire et de trouver les moyens de trouver les publics, notamment par le biais de la sensibilisation et de la transmission, c'est-à-dire de faire que les artistes aillent à la rencontre des publics, de trouver un moyen de, via les enseignants, via tout ce que sont les associations, les conservatoires, les écoles de musique, etc., les enseignants dans les lycées, etc., de leur dire surtout ne lâchez pas ça, ne lâchez pas la découverte et l'apprentissage de la musique d'aujourd'hui, car la musique d'aujourd'hui, elle est connectée à la musique d'hier, et c'est parfois par la musique d'aujourd'hui qu'on va rentrer dans la musique d'hier.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Du coup, Arnaud Meunier, cette démarche de jouer des auteurs contemporains ou vivants, c'est une démarche qui vous est apparue à la suite de cette première expérience ou de ces premières expériences?
En fait, je pense que c'est lié au fait que j'ai eu tout le temps... Alors ça, c'est peut-être connecté à Sciences Po. J'ai envie de faire un théâtre qui parle du monde d'aujourd'hui. Donc, j'ai mis en scène des pièces, par exemple, qui parlaient d'économie et de finance. Le chapitre de la chute, c'est l'histoire des Lehman Brothers, c'est l'histoire de la faillite de la banque d'affaires. C'était un spectacle de presque 4 heures sur la finance mondiale. Ça a été un énorme succès qui l'eût cru. Voilà, bon... Pour parler de ce genre de choses, je pense que Shakespeare, Marivaux, Molière seront toujours des références et continueront à parler à nos contemporains, bien sûr, parce qu'ils ont su capter ce qui, dans l'être humain, reste universel. Mais ne peuvent pas raconter la faillite de Lehman Brothers. Et donc, je constatais aussi, notamment, et ça a été une bataille avec les enseignants, une bataille que je crois avoir gagnée à Saint-Étienne, parce que on a doublé le nombre de spectateurs en 8 ans à Saint-Étienne. C'est souvent par le théâtre d'aujourd'hui qu'on peut amener les jeunes à s'intéresser au théâtre, à les débarrasser de tout un tas de clichés, des classiques Larousse, grosso modo. C'est-à-dire, on met des chaussures à talonnettes, des chemises à jabot, et puis des collants pour jouer Molière. Et ça, c'est un cliché qui, du coup, nous aide pas dans la diversité sociale des publics qu'on peut chercher, et puis dans le fait d'aller rajeunir constamment nos spectateurs. Donc souvent, c'est par le théâtre d'aujourd'hui qu'on va trouver les spectateurs d'aujourd'hui. Je pense que pour la musique, ça doit pouvoir être possible aussi.
C'est une idée que vous aviez en tête quand vous avez monté L'Enfant et les Sortilèges de Ravel?
Oh ben ça, c'est très beau. C'est l'invitation de Bernard Foucroul au Festival d'Aix-en-Provence, parce qu'il m'avait invité à faire partie de l'Académie. Et ensuite, il m'a proposé cet opéra, et ça a été un régal.
Yes.
Sabine Deviel et Chloé Briot interprètent ce premier tableau, L'enfant et la princesse de L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, avec l'orchestre philharmonique de Radio France, sous la direction de Mikko Franck. Et Arnaud Meunier, c'est donc une œuvre que vous avez donnée à entendre et à voir au Festival d'Aix en Provence, vous le disiez, grâce à Bernard Faucroul qui vous avait proposé
et
de
Émilie
de
Delorme,
faire.
Je voulais Émilie citer Delorme, Émilie aussi, vrai. Parce qu'Émilie, c'est la responsable de l'Académie. Mmh. Et c'est Émilie qui m'a ouvert la porte de l'Académie. Et c'est vrai que... On cite souvent les directeurs, mais c'est important de citer ceux que, et celles notamment, qui sont souvent dans l'ombre. Et je pense que je n'aurais pas fait cet opéra s'il n'y avait pas eu Émilie. Et ça, c'était merveilleux. C'est-à-dire que j'étais au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence. C'est très confortable parce qu'on est la seule production, donc on n'a pas d'alternance, donc on est en répétition constamment. Et c'était une très, très, très belle version instrumentale de Didier Puntos. C'était une version très théâtralisée. Il n'y avait pas d'orchestre. C'était piano quatre mains, violoncelle et flûte. Et des jeunes chanteurs qui étaient issus de l'Académie. Et donc, on a fait une tournée assez forte et assez longue. On est allé au Maroc, notamment, jouer L'Enfant et les Sortilèges. Ça a été évidemment une très belle aventure.
Ça se fait de demander si vous préférez diriger des opéras ou des pièces de théâtre où ça n'a rien à voir strictement.
En tout cas, ce que j'adore à l'opéra, c'est le partage de la responsabilité artistique avec le chef. C'est-à-dire que du coup, on n'est pas tout seul à bord. Et ça, je trouve que c'est très beau quand il y a une vraie complicité qui s'établit. Avec le chef, ça pour moi c'est formidable. Thank you.
Alexandre Tarot et l'ensemble orchestral de Paris interprétant L'oiseau innumérable de Thierry Pécou. Pour quasiment terminer cette émission avec vous, Arnaud Meunier, c'est un de vos derniers coups de cœur.
Oui, j'adore. J'adore la musique de Thierry. J'espère vraiment un jour qu'on arrivera à faire un projet ensemble. On le souhaite, on le désire tous les deux depuis longtemps. On avait proposé un projet ensemble au Festival d'Aix, justement. La difficulté, c'est que Thierry a une musique qui est puissante et qui donc du coup mérite un vrai orchestre, quoi. Et ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure. Souvent pour les créations contemporaines, on diminue la voilure d'une certaine manière, c'est-à-dire l'ambition, c'est-à-dire qu'il y a moins de moyens financiers que quand on monte la flûte enchantée. Et donc je pense que Thierry a envie de pouvoir faire une œuvre vraiment de grande envergure à l'opéra, et il faudrait trouver quelqu'un qui veuille bien avoir le courage de produire ça. Moi, j'adorerais mettre en scène la musique de Thierry. Je la trouve puissante, imagée, audacieuse, colorée. J'aime beaucoup son parcours aussi. Lui, c'est un être aussi discret dans la vie qu'il est puissant musicalement. Je trouve que c'est un très très bon compositeur français aujourd'hui, et que je serais ravi de participer à sa popularisation d'une certaine manière, à sa démocratisation. Vous savez que moi, je fais partie des gens qui pensent que la démocratisation artistique et culturelle est loin d'avoir échoué. Vraiment loin d'avoir échoué. C'est même tout le contraire. Quand on se rappelle ce qu'était la France après la Seconde Guerre mondiale et regardons ce qu'elle est aujourd'hui, c'est considérable.
Arnaud Meunier, l'optimiste, on va bientôt se quitter. Je voulais dire un dernier mot justement par rapport à la démocratisation de la culture, et vous qui êtes un enfant de la démocratisation républicaine, vous avez beaucoup œuvré à la Comédie de Saint-Étienne pour ouvrir le théâtre à un autre public. Cet autre public, vous avez du résultat. Je crois que dans le dernier spectacle, il y a certains...
Oui, on a notamment un programme d'égalité des chances avec ce qu'on appelle une classe préparatoire intégrée qui aide des jeunes qui sont choisis sur critères sociaux pour passer les concours des écoles supérieures d'art dramatique. Vous savez, ce sont des concours extrêmement sélectifs. Le Conservatoire de Paris, c'est 1300 candidats pour 30 places, et Saint-Étienne, c'est 750 candidats pour 10 places. Donc on les aide à préparer ces concours, et depuis 5 ans que ce programme existe, nous avons aujourd'hui 18 jeunes qui sont entrer dans des écoles supérieures, dont 3 au Conservatoire de Paris. Et nous avons maintenant nos premiers diplômés qui sont sur le marché du travail. Et effectivement, j'en ai engagé 2 d'entre eux dans mon dernier spectacle. J'ai pris mon père sur mes épaules de Fabrice Melchiot, Bénédicte Bemba et Federico Semedo. Et c'est une grande fierté. Et ça, pour moi, c'est toujours une très belle récompense de concrétiser nos utopies.
On va se quitter avec Jacques Offenbach. J'ai découvert que c'était l'un de vos compositeurs de chevet. Là, l'optimisme, la gaieté, la joie.
Oui, puis le théâtre aussi. C'est la musique, c'est ça. Et le théâtre. Tout le plaisir du théâtre et de la musique réunis chez Offenbach.
Avec la belle Hélène. Merci beaucoup, Arnaud Meunier.
Merci,
d'être
Elsa.
Venu. Et puis, bonne continuation.
À très bientôt.
À bientôt.
avec ses dames qu'au reste fait danser l'argent à papa. Papa s'en fiche bien au reste, car c'est la Grèce qui pèle. C'est Parthénis et Héléna qui m'ont dit tout vouloir connaître.
Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis, Héléna,
extrait de La Belle Hélène de Jacques Offenbach, interprété par les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski, pour terminer cette émission en compagnie d'Arnaud Meunier, qui était donc l'invité de Musique et Moi ce matin. Un grand merci à Olivier Dupré qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et Moi. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain à 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.